Les universités françaises correspondent souvent avec des universités d'autres pays du monde. Des accords existent, notamment avec la Centrafrique en ce qui concerne l'université de Lille. Monsieur Michel Wartel, bonjour.
Bonjour, monsieur Lavin.
Vous êtes en compagnie de Muriel Bigan également. Vous êtes professeur émérite à l'université de Lille,
oui.
Et vous êtes à l'origine d'un DESS traitement de l'eau.
Oui.
Madame Bigan est chimiste et elle travaille aussi avec cette université de Bangui dont on va parler autour de problématiques liées au séchage des aliments et d'autres choses dans le cadre de ces projets internationaux de collaboration. Donc tout d'abord, merci d'être venu, bienvenue. Donc, ces problèmes liés à l'eau, bien sûr, en France, pour nous, on a l'eau qui arrive dans les maisons, etc. On n'a pas l'impression que dans le reste du monde, la situation est très différente. Et on peut dire que les problèmes de l'eau concernent au moins 80% de l'humanité, non?
Alors sûrement, oui, sûrement. Ben, surtout en Centrafrique, le problème est important. 65% de la population ne dispose pas d'eau potable. Et il n'existe qu'une seule usine de traitement de l'eau, qui est à Bangui. Et tout le reste de la population utilise soit donc des forages, quelques forages, ou alors s'approvisionne à la rivière ou à quelques sources. Mais de nombreuses sources et forages sont quelquefois pollués aussi par le fer en particulier.
Quand on dit pollution, il y a en gros deux cas. Il y a la pollution liée aux minéraux et aux choses impures qui sont dans l'eau. Et puis il y a aussi la pollution microbienne.
Oui, ben, la pollution microbienne, et c'est surtout elle qui compte en Centrafrique. Puisque évidemment il y a très peu d'agriculture, on n'utilise pas de pesticides, il n'y a pas de nitrate, donc l'eau généralement ne contient très peu de polluants chimiques, excepté le fer, puisqu'on a des sols latéritiques. Et par contre, évidemment, il y a une pollution bactérienne très importante.
Cette pollution a évidemment une incidence directe sur la santé des populations, on pourrait dire choléra peut-être, dysenterie ou d'autres maladies.
Oui.
Donc effectivement, il y a une urgence, mais quand je dis une urgence, c'est une situation endémique hein, quand même,
oui,
hein, à intervenir et à trouver des solutions durables. On est là pour parler justement de ces solutions que l'Université de Lille apporte dans le cadre de cet accord dont on va parler. Donc, Monsieur Wartel, cet accord interuniversitaire est entre deux universités, celle de Lille et celle de
Bangui,
qui est l'université unique de Centrafrique.
Tout à fait, la seule université de Centrafrique. Cette convention a été signée grâce à M. le professeur Rougegud, qui était professeur à Centrale et qui a été détaché au ministère de l'enseignement supérieur en Centrafrique. Et il a signé avec M. le professeur Brocard, qui était vice-président des relations internationales, un accord de coopération. Et cet accord, depuis donc une quinzaine d'années, continue. Et cet accord, évidemment, ne peut marcher que grâce à l'ambassade de France qui finance une grande partie des déplacements d'enseignants des deux universités.
La République du Centrafrique, c'est une des républiques de ce vaste continent. Pourquoi le Centrafrique? Pourquoi pas d'autres pays? Comment on met en place des priorités dans les aides qu'on apporte à ces pays?
Bah, tout d'abord, je voudrais faire une petite me rappeler que monsieur le Premier ministre actuellement a fait sa thèse de mathématiques à l'Université de Lille. Il était recteur de l'Université de Bangui et il a été nommé Premier ministre. Donc vous voyez qui sont les accords. C'est très facile d'avoir des accords avec eux. Hein.
D'accord.
Pourquoi Centrafrique? Parce que, je ne sais pas, je crois que c'est monsieur Rochegude qui a fait cette opportunité pour ces accords. Hein.
Mm-hmm. Ce qu'on peut souligner quand même, peut-être, c'est que la Centrafrique est quand même un pays très enclavé.
Oui.
Donc finalement, ils sont quand même un peu isolés par rapport à d'autres pays côtiers qui, eux, ont la possibilité de se développer un peu plus vite.
Mm-hmm. Population nombreuse en Centrafrique?
4 millions d'habitants pour un pays aussi grand, un peu plus grand que la France.
Oui, ça fait de l'espace.
Ça fait de l'espace, oui.
Alors, dans ce pays donc qui est très vaste, effectivement, traiter l'eau, ça suppose, avec une échelle comme l'échelle de la France, on va dire, d'aller au plus près des habitants.
Sûrement, mais déjà, il n'y avait que l'Institut Pasteur est implanté à Bangui. Et l'Institut Pasteur a une personne qui peut faire quelques analyses de bactériologiques. Donc, vous voyez, très peu de personnes pour vérifier la qualité de l'eau. Donc je crois qu'il était important que l'université de Bangui prenne une place dans ce contrôle de la qualité de l'eau. Hein. Et voilà donc pourquoi nous nous sommes lancés sur ce projet.
Donc il y a une partie, on va dire, état des lieux, quelles sont les zones à traiter urgemment, on va dire.
Oui.
Et puis il y a une partie traitement, donc la technique, la technicité, la technologie et l'ingénierie, on va dire, le savoir-faire pour transmettre aux personnes qui sont chargées des problèmes de l'eau localement, c'est-à-dire dans ce pays de Centrafrique, de pouvoir être autonome par la suite quant au traitement de l'eau.
Tout à fait. Donc 5 enseignants ou étudiants de le Centrafrique sont venus suivre le DESS, traitement de l'eau.
Mm-hmm.
Et un étudiant qui est technicien a suivi un stage de 2 mois à l'Institut Pasteur pour développer l'analyse bactériologique en Centrafrique.
Donc on peut dire que la coopération entre l'Université de Lille et l'Université de Bangui, c'est des échanges de compétences et aussi que ces étudiants qui viennent en France retournent ensuite dans leur pays pour amener cette compétence acquise en France et régler localement les problèmes.
Oui, sur 5 étudiants que nous avons eus, un seulement est resté en France actuellement.
D'accord.
Les autres, au contraire, je pense qu'ils aiment beaucoup leur pays. Ce dernier étudiant que nous sommes en train de former, qui est en master de toxicologie maintenant à l'Institut de Lille 2, et qui a fait un stage de microbiologie, je suis sûr que l'Institut Pasteur voudrait l'embaucher, mais il a dit que non, il voulait rester à l'Université de Bangui. Il veut rendre à Bangui ce qu'on lui a donné. Donc vous voyez, je crois que ces gens aiment leur pays.
C'est une nouvelle tendance?
Je pense que oui, beaucoup de gens aiment leur pays. S'ils pouvaient trouver un travail là-bas, si on pouvait développer quelque chose, mais comme a dit Muriel, le gros problème, c'est que le transport coûte très cher. Nous, quand nous envoyons un colis, nous payons de 5 à 6 euros le kilo. Hein. Par avion, il faut tout envoyer par avion. Donc vous voyez, ça coûte très cher. Il y a une possibilité d'envoyer par le Cameroun à Douala, mais il y a 1000 km de Douala à Bangui, et généralement, on rencontre des petits voleurs qui vous abîment, qui vous prennent tout le matériel. Là, un énorme problème avec la Centrafrique. Hein.
Mm-hmm. Pour ces étudiants qui rentrent et qui sont des professionnels ensuite, est-ce que sur place, ils ont les moyens de vivre professionnellement? Est-ce qu'il y a des salaires à la clé?
Ceux qui sont enseignants, je crois que oui. Ils ont un salaire, évidemment, pas le nôtre, c'est sûr. Hein. Mais je pense qu'ils arrivent à vivre là-bas. Hein.
Oui, les besoins ne sont pas les mêmes que par ici. Donc forcément, ils arrivent quand même à vivre avec leur salaire. Mais effectivement, il y a quand même, comme vous le soulignez, donc une tendance à l'heure actuelle de vouloir participer au développement de leur pays. Ça, c'est très, très important pour eux. Ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, ils ont beaucoup de retard. Peut-être par rapport à d'autres pays voisins, et ils souhaitent vraiment mener des actions de développement pour leur propre pays.
Donc on a bien compris, cette coopération va déboucher, ou débouche peut-être déjà, sur un développement, on peut dire, durable.
Voilà.
Les étudiants, il y a une dizaine d'années, dans les salles de travaux pratiques, il n'y avait rien. Donc les étudiants ne voyaient rien en matériel, ne manipulaient pas du tout. Par exemple, une étudiante qui avait une maîtrise de biologie est venue ici pour faire un DEA, et on lui a refait faire la maîtrise de biologie. Elle n'a pas eu cet examen puisqu'elle n'avait jamais manipulé. Or, actuellement, je crois qu'avec tout ce que l'Université de Lille apporte, ce qu'elle donne de matériel, beaucoup d'étudiants maintenant travaillent sur des appareils quand même qui sont assez récents. Donc je crois que c'est un gros progrès pour la formation des étudiants là-bas.
Voilà, donc cette collaboration entre deux universités, bon, ça peut partir au départ peut-être d'affinité entre des personnes, entre des besoins exprimés, quantifiés, et ensuite d'un projet validé. Donc qui valide le projet? Quels sont vos partenaires?
Donc le projet a été validé par le président de l'Université de Lille et le recteur de l'Université de Bangui. Et c'est passé aussi au ministère de l'Enseignement supérieur, qui a aussi, le ministre, a validé aussi cet accord de coopération.
D'accord.
Mais à l'heure actuelle, on a aussi donc des projets qui se font aussi avec un partenariat avec la région. C'est-à-dire que la région nous aide à mettre en place donc certains de nos projets.
Donc la région, elle aide d'une manière générale certains projets humanitaires.
Voilà, oui. Certains projets scientifiques, mais qui répondent à des besoins aussi humanitaires et qui participent au développement local, surtout donc en Centrafrique.
D'accord. Ces projets-là, ils sont aidés annuellement ou on aide un projet, point barre?
On aide à un projet, mais disons ce projet peut s'étendre sur une durée de 3 ans maximum.
C'est dans le cadre d'une convention?
Pas forcément. Ça peut être dans le cadre d'une convention, mais ça peut être aussi...
C'est un contrat. Si ça, hein, solidarité ici, solidarité ailleurs, avec un maximum de 20 000 euros.
D'accord.
Et il faut évidemment apporter, la région apporte un tiers, il faut apporter 2 tiers.
Hein. Voilà, donc vous avez trouvé des cofinanceurs, c'est ça. Si on revient donc au deuxième projet, celui des séchoirs solaires, donc Madame Bigand, vous avez proposé donc au Centrafrique d'installer, pour des raisons que vous allez expliquer, des séchoirs qui permettent de sécher les fruits.
Bon, en fait, il y avait déjà donc un projet émergent sur un procédé donc de séchage, à partir donc d'un capteur solaire et d'une colonne de séchage dans lequel donc les aliments sont disposés. Donc, en participant par l'intermédiaire de la convention entre l'Université de Lille et l'Université de Bangui, je suis intervenue plutôt sur une mission d'enseignement qui est plutôt relatif à l'optimisation des procédés. Et effectivement, par rapport à ce procédé qui était donc déjà un peu initié, j'ai participé, on va dire, à son développement. Donc, essayer d'optimiser le procédé actuel de manière à pouvoir donc sécher, on va dire, correctement donc les aliments. Parce qu'il faut savoir que là-bas, la majorité du séchage se fait donc à l'air libre, par terre, donc dans des conditions non hygiéniques. Et donc, il est important pour la population de pouvoir avoir accès à à des aliments qui soient quand même de meilleure qualité. Donc on a optimisé le séchoir actuel qui fonctionne en fait par convection naturelle. C'est-à-dire que donc, c'est un séchage donc avec un capteur solaire et puis donc ensuite la chaleur est diffusée à l'intérieur de cette colonne de séchage, mais sans ventilation. Or, les procédés de séchage avec ventilation auraient une meilleure efficacité. Il y a eu tout un équipement de panneaux solaires qui vient d'arriver et qui va permettre justement d'équiper ces séchoirs à l'aide de ventilateurs qui vont pouvoir fonctionner à partir des kits de panneaux solaires.
D'accord. Si on voit au niveau des quantités, si on prend une récolte par exemple, qui est censée faire l'année, couvrir l'année jusqu'à l'année d'après, actuellement, le fait de ne pas conserver dans de bonnes conditions les fruits ou les fruits secs, peu importe, ça occasionne des pertes de combien et qu'est-ce que vous gagnez par rapport à ça?
Alors, il faut savoir que les pertes sont importantes parce que les conditions climatiques là-bas, on alterne entre des saisons qui sont très sèches et des saisons qui peuvent être très humides. Donc, ça a des conséquences évidemment très importantes au point de vue alimentaire. Et donc là, le but, c'est de pouvoir les sécher de manière à répartir, une production tout au long de l'année. Et il faut savoir qu'il y a des problèmes de malnutrition en Centrafrique. Donc ça permettrait de répondre, à ces problèmes Et d'autre part, ça permettrait un développement local, je dirais, au point de vue économique, puisque ça permettrait de répartir ces denrées alimentaires sur toute l'année et peut-être même pouvoir exporter vers des pays, on va dire, limitrophes.
Mmh. Est-ce que le Centrafrique, c'est un pays qui, d'un point de vue de sa terre, de l'environnement, est finalement assez riche en ressources?
Oui, ils ont une richesse agricole. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fruits et légumes. Bon, il y a aussi le manioc, il y a les piments,
les mangues,
le kombo, qui sont des piments. Mais le problème, voilà, c'est évidemment les conditions, on va dire, d'hygiène. Enfin, ça manque d'hygiène, en fait. Et surtout, le fait de ces saisons qui finalement, font que ces denrées sont facilement périssables et ne répondent pas, on va dire, aux besoins alimentaires de la population. Sur toute l'année.
Je crois qu'en campagne, les gens ne meurent pas de faim là-bas. Il y a des fruits, on n'a qu'à cueillir presque. Évidemment, en ville, c'est différent.
Justement, tout l'art de l'économie de ce pays, c'est de valoriser ces ressources et de les préserver, de les rendre accessibles au plus grand nombre.
Voilà, c'est exactement ça. Et puis, je vous dis, donc, en même temps, peut-être, pourquoi pas exporter vers des pays limitrophes, parce que, comme je vous ai dit, la Centrafrique est un pays quand même très, très enclavé, pour lequel les moyens de transport sont quand même très, très peu, on va dire, développés, et très peu nombreux, d'ailleurs. Il faut savoir que pour la Bangui, nous n'avons qu'un avion par semaine. On a des moyens de transport très, très limités.
Oui, un autre problème qu'il faudra peut-être développer, c'est la cuisine. Toute la cuisine est faite avec du bois, avec du charbon de bois. Donc, on est en train d'enlever le bois tout autour de la ville et de faire du charbon de bois en ville. Et là, on arrive à une déforestation. Et comme on ne fait pas de culture du tout, toute la brousse repousse. Là. Donc, vous voyez, il faudrait pouvoir développer justement dans ce pays du chauffage pour la cuisine, disons.
Voilà. Bon, ils ont pris conscience à la fois de richesses de leur pays, mais aussi, par exemple, ils savent très bien que... c'est un pays très chaud où justement l'énergie solaire est abondante. Donc effectivement, ils sont intéressés par tout ce qui est développement de ces énergies qui sont non polluantes et dont ils ont une source très abondante. C'est pour ça qu'ils sont très, 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 très demandeurs de ces panneaux, on va dire, photovoltaïques qui permettraient justement de pouvoir répondre à un certain nombre de leurs problématiques.
Madame Bigon, on l'a bien compris, vous pouvez amener des solutions très importantes et finalement le coût de cette aide, elle est finalement relativement peu élevée par rapport aux grands bénéfices qu'une population pourrait en tirer si c'était correctement mis en œuvre et dans la durée.
Dans la durée, tout à fait. Ça rentre vraiment dans une démarche de développement durable.
Et est-ce que localement, justement, cette longévité peut être assurée localement par donc des experts, des spécialistes, des techniciens qui auraient cette capacité à poursuivre votre mission?
En tout cas, ils sont demandeurs. Ils veulent. Ils sont motivés pour pouvoir pérenniser, on va dire, ces actions. Oui.
Donc il y a cette motivation qui existe. Est-ce que, d'un point de vue. Administratif, l'État de Centrafrique est capable ou a cet effet d'entraînement pour apporter, pour concrétiser cette dynamique en fait.
Je crois que cet État aide très peu quand même. Il n'y a que deux grosses entreprises dans Centrafrique. Il y a une très grande brasserie et une très grande huilerie. À part ça, il n'y a pas d'autres usines. Hein. Donc vous voyez, très peu d'argent, très peu de travail possible. Hein. Et le travail, là-bas, par exemple, tout le travail est fait à la main. Tout le sable qui est utilisé pour Bangui est prélevé par des plongeurs qui ramènent par des petits paniers le sable de l'Oubangui. Il n'y a aucune suceuse, par exemple, pour récupérer le sable.
C'est un pays où il y a beaucoup à faire. Et pour lequel il y a nécessité, effectivement, de les aider. Par contre, ce qu'ils apprécient, c'est que, justement, on ait cette volonté, on va dire, de faire des choses avec eux, c'est-à-dire de les aider dans leur démarche, de pouvoir les former, les initier. Et je pense qu'après, ça viendra petit à petit.
Est-ce que vous vous sentez écouté par les autorités ?
Si, on est toujours très bien reçu par le recteur à chaque visite. Quelquefois, moi, j'ai été reçu plus d'une ou deux fois par le ministre, le Premier ministre, hein, puisque évidemment, je le connaissais bien. Et le recteur nous aide à chaque fois. Et si, si, on est très bien. Mais les moyens qui sont donnés au laboratoire sont quasi nuls. Hein. Donc, ils attendent beaucoup de nous, quand même. Hein. Mm-hmm. L'université a très peu d'argent. Hein.
Et pourtant, on a bien compris, c'est vital, ça, ce processus.
Tout à fait.
Mmh. On a maintenant bien compris les enjeux et l'action que vous menez. On se donne rendez-vous peut-être dans quelques années pour voir si cette évolution suit le cours de ce que vous espérez. Mmh. Les résultats sont au rendez-vous. Donc, Madame Bigand, cette année, c'est une année un peu spéciale.
Oui, parce que c'est le cinquantenaire de l'indépendance donc des pays d'Afrique. Je voulais rappeler aussi que la semaine dernière, c'était le sommet donc France-Afrique sur Nice et que on voyait beaucoup, je dirais au niveau donc de la France, beaucoup d'appels à projets, on va dire scientifiques vis-à-vis des pays européens. Et je voulais rappeler que notre passé avec les pays d'Afrique, c'est quand même quelque chose de très très important. Et très marqué. Je pense qu'il y a une importance capitale à développer les projets émergents. Avec l'Afrique, surtout quand ils correspondent à un développement local, parce que bon, les pays d'Afrique sont des pays francophones et je dirais très très proches de nous.
D'accord. Au niveau de l'Université de Lille, il y a d'autres domaines dans lesquels les chercheurs sont associés à des réflexions et à des actions.
Il n'y a pas que nos deux actions dans, dans les accords interuniversitaires Lille-Bangui. Hein. Il y a aussi les physiciens qui assurent de l'enseignement de physique et puis de l'enseignement à distance. Ça, ce serait, il faudrait un jour les interroger, M. Blondeau, Mme Vindevongel. Il y a aussi les professeurs de l'IAE qui font des cours de gestion. Et ils sont très demandeurs aux cours de gestion. Et il y a aussi M. Lemoine qui assure un cours sur la biologie végétale. Sur le justement, il y a un problème de manioc. Le manioc, je ne sais plus, est atteint d'une certaine bactérie. Et avec M. Lemoine, ils vont essayer de travailler là-dessus.
On a maintenant bien compris les enjeux et l'action que vous menez. On se donne rendez-vous peut-être dans quelques années pour voir si cette évolution suit le cours de ce que vous espérez. Mm-hmm. Les résultats sont au rendez-vous. Monsieur Wartel et Madame Bigand, merci beaucoup. Et bon courage pour la suite donc, de cette coopération qui nous paraît vraiment nécessaire et urgente.